Bonjour, pour ce 12e numéro de Confinez-vous à nous, nous retrouvons Reynald de Brizay, maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Nantes, joint par téléphone jeudi dernier.
On vit un moment particulier parce que je crois que la parole politique qui se diffuse et va se diffuser d'ici la fin de cette histoire-là va devoir être une parole beaucoup plus responsable. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne pense pas que les gouvernants puissent se présenter devant nous en tenant des propos qui ne seraient pas immédiatement confirmés par les actes qu'ils supposent. Donc je crois que c'est une parole où on va peut-être un peu mieux se rapprocher au fond de ce qu'on attend d'une parole politique, c'est-à-dire une congruence, un accord entre le dire et le faire. Et ça va être vraiment un aspect important de ce qui se dit. On ne peut pas dire et déclarer aujourd'hui, par exemple, qu'on va enfin sérieusement se préoccuper de la situation d'organisation, de la situation économique, financière et en termes de personnel de l'hôpital public, si quand l'affaire sera, entre guillemets, plus ou moins éteinte, on continue à envoyer les administratifs de toutes les agences dans les hôpitaux pour continuer à la réduction des effectifs, etc., etc. Il y avait à ce propos un très bon texte que je signale, une déclaration d'une psychologue du CHU de Mulhouse dans Libération, un vrai coup de gueule, long, qui fait 8 pages, car elle raconte que le CHU de Mulhouse a été pilote sur les nouvelles politiques de santé et que donc pendant plusieurs années ont défilé dans le CHU les différents experts du ministère et des ARS qui sont venus pour expliquer pourquoi on allait fermer tous ces lits, pourquoi on allait réduire les effectifs de tels services, pourquoi on allait diminuer les budgets pour tels matériaux et matériels, enfin, etc. Et elle raconte ça avec une force qui résonne pour moi, parce que je me dis, face à cette parole-là, de cette femme-là, là, ceux qui vont se présenter devant elle, là, dorénavant, c'est d'ailleurs la conclusion de son texte, hein, ont intérêt à savoir ce qu'ils disent, pourquoi ils le disent, et quelle sera la conséquence concrète de ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'on va sortir peut-être, alors plus ou moins durablement, comme toujours, car tout s'efface, hein, mais au moins dans un temps, je pense qu'il y aura une période où effectivement la question du discours politique va redescendre d'un cran et ne pas se situer seulement sur de la stratégie de communication, le choix d'éléments de langage, des manières de dire ou de ne pas dire, soi-disant, mais revenir sur plus ce qu'on appelle une parole performative, c'est-à-dire quand je dis, je fais.
Est-ce le bon moment pour critiquer la gestion de cette crise ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais moment. En tout cas, c'est un argument qui est trop aisément manipulable par les dominants. Parce qu'au final, ça n'est jamais le bon moment. Quand il n'y a pas de crise, on nous explique qu'on n'a pas de raison d'être en colère et de revendiquer puisqu'il n'y a pas de problème. Et quand il y a des problèmes, on nous explique que ce n'est vraiment pas le moment parce qu'il faut s'occuper des problèmes. Donc je crois que ça c'est un discours, enfin pour moi c'est irrecevable, chacun a la liberté. La seule question qui m'interroge, c'est quels sont les moyens que l'on peut se donner pour avoir des éléments sérieux d'information. Et là je constate qu'il y a, en tout cas selon moi, pas tant de sources fiables que ça. Il faut vraiment faire bien attention, là je viens de lire juste avant que je réponde là, un très très bon article qui refait la chronologie du Covid-19. Là. Et c'est un article qui est fondé sur une relecture des articles scientifiques de la revue Science et qui prend ça comme trace, qui dit, ben voilà, hein, la revue Science, elle répertorie sur le plan mondial tous les articles concernant, entre autres, ces problématiques de santé et tout ça. Et donc là, on a affaire véritablement voilà, à des choses sérieuse. Et en fait, c'est très, très intéressant. La personne a fait, c'est un chercheur du CNRS, il a retracé comme ça l'apparition donc des articles autour du Covid-19. Et je trouve que ça remet bien les pendules à l'heure, quoi. Ça explique bien qui était informé, quand, de quoi. Et du coup, ça permet d'emblée d'avoir déjà un regard que d'aucuns qualifieront de critique sur la gestion de la crise. C'est-à-dire, à quelle date précisément découvre-t-on l'existence de ce virus? Quand est-ce qu'on apprend qu'il est potentiellement à ce point dangereux? Qu'est-ce qu'on sait de ce virus à tel moment? Quand est-ce qu'il commence à être question de pandémie? À quel moment on confirme la pandémie? À partir de la pandémie, quelles sont les stratégies déjà mises en œuvre par les pays touchés? Quelle évaluation on en a, etc. Et je trouve que ça permet, voilà, d'avoir une approche effectivement critique, hein, de personne ne peut, par exemple, aujourd'hui, m'empêcher, ni moi ni d'autres, de mettre en question le maintien de ce vote, le fameux dimanche, hein, du premier tour au municipal, et la simultanéité, hein, d'annonce entre le maintien de ce vote et la fermeture des écoles. Il y a quelque chose là qui, dès maintenant, on peut dire que là, il y a quelque chose qui ne tient pas. Et on ne va pas attendre la fin pour parler.
Je modifie ma dernière question, je ne vais pas dire est-ce le bon moment, donc il est tout indiqué de réfléchir aux conséquences à l'avenir des mesures mises en place actuellement.
Plusieurs motifs, hein, pour cela. Déjà, le premier motif, c'est que là, actuellement, mais là encore, il va falloir suivre les études, mais rien ne nous signale, en tout cas, que le Covid-19 disparaisse et ne soit pas à terme un virus récurrent comme celui de la grippe, c'est-à-dire qu'on ne soit pas tous les ans reconfronté à la présence de ce virus, et que sur un autre plan, il est évident que des attaques de ce type-là font partie des données qui doivent être prises en compte. On sait que la politique, ça consiste à prévoir, soi-disant, donc il est évident que là, il va falloir qu'on réexamine sérieusement toute une série de questions. Il y en a une qui, je crois, est dans la tête de tous, c'est les effets de la mondialisation, c'est-à-dire est-il pertinent de voir être confisqué à certains endroits du monde et par certains États la production d'éléments fondamentaux en termes de sécurité sanitaire. Je pense par exemple aux médicaments. Quand on sait que les alertes, elles datent pas du Covid, hein, puisque ça fait quand même maintenant 2 ans. On alerte sur le fait que pour certaines grandes pathologies, la production de médicaments étant assurée dorénavant à 95% par la Chine, par exemple, bien on peut se retrouver en rupture du jour au lendemain de traitement. Je pense à scandale de la cortisone, je pense à, bon, je passe les détails, c'est connu aujourd'hui, mais ce qui est urgent là, c'est une décision politique. Il est question de renationalisation là, de certaines entreprises pour éviter l'effondrement économique. Hein. C'est en tout cas ce que le ministre de l'économie a laissé entendre. Mais la première chose à faire, ça fait des années que nous sommes plusieurs à le réclamer, c'est de mettre en place l'équivalent d'une CEITA qui produisait du tabac. Hein. Bien, il nous faut l'équivalent, hein, en termes de production de médicaments de base génériques et que là, il est insupportable d'imaginer qu'on puisse dépendre du marché mondial pour pouvoir garantir à toutes les personnes qui en ont besoin des traitements de fond, sans lesquels ces personnes se dégraderaient vraiment très rapidement, quoi. Il est insupportable de voir que la cancérologie, du point de vue médicamenteux, soit totalement dans les pattes du privé et que, en termes de stratégie d'État, on n'ait pas mis en place à la fois les équipes de recherche conséquentes et bien équipées et financées, et les sites de production, ça, c'est pas possible. Donc, on sait que là, il y a un problème. Quand on sait que le réactif pour les tests du Covid sont produits de manière monopolistique par, je crois, 3 ou 4 usines au monde, on se dit, là, ça va pas du tout. Enfin, quand on voit M. Trump, hein, qui propose de racheter des brevets, on se dit, mais on ne peut pas supporter. Enfin, donc là, franchement, je crois qu'il va falloir qu'on soit extrêmement attentif en tant que citoyen. Moi, j'en appelle à une vigilance citoyenne sur ces questions-là. Il est hors de question que on ne remette pas en question la privatisation, la marchandisation de notre santé. Et j'avoue que je me contrefous des vertus du libéralisme. Hein. C'est de dire non, non, mais là c'est une exigence. Je ne vous demande pas de me faire des discours de communicants sur les beautés de l'économie libérale. Hein. Je réclame que nous nous organisions collectivement pour aménager les conditions de prise en compte de ce type d'événements qui ne manqueront pas de réapparaître sous cette forme-là ou une
Mais
autre.
je pensais plus largement aux outils de contrôle social, de traçage, à la numérisation du travail.
Ouais, mais je crois que là on est. J'espère qu'en tout cas, je crois que c'est le cas. Hein. Tout le monde est très prêt là. À ne rien laisser passer. C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut là aussi de la vigilance. Il est hors de question qu'il y ait une pérennisation de mesures transitoires quand elles touchent à ces questions-là. Déjà, le fait que le gouvernement ait eu l'indélicatesse, le mot est léger, de faire voter son par 49-3 sa loi sur la retraite, alors qu'ils étaient déjà parfaitement informés de ce qui se présentait, se préparait à propos du Covid, c'est déjà pour moi franchement insupportable. Et ça les déqualifie véritablement. C'est-à-dire d'avoir privilégié un choix politique sur une question là de santé publique qui, de toute évidence, allait devenir grave, voire gravissime. Alors que derrière, ils puissent avoir une seule seconde en tête de profiter de cette opération de confinement et des modifications actuelles là, du droit du travail par simple ordonnance. Non, là je crois qu'on va être très nombreux dans les rues. On portera peut-être des masques pour éviter de s'infester mutuellement, mais on va y être hein, parce que il est hors de question qu'on ait là encore un libéralisme là, qui surfe sur la vague hein, pour pouvoir revenir sur la question du temps de travail, la question du travail du dimanche, la question de voilà, parce que ce sont bien évidemment ces questions-là qui sont actuellement en cause. Mais je pense que ça, enfin, en tout cas du côté syndical, je sens que la vigilance est très forte là-dessus.
On n'a pas le droit de porter un masque lorsqu'on manifeste dans la rue.
Alors justement, ça fait partie des éléments intéressants parce que ça sera. Je crois que ce sera voilà, le genre de contradictions qui révéleront peut-être tous les enjeux du masque. Hein. Le masque, ça sert à la fois à cacher son identité, mais en même temps, ça sert à se préserver soi de l'autre, mais en même temps, ça sert à préserver l'autre de soi. Donc on aura sans doute l'occasion de refaire peut-être même une émission entière sur faut-il être ou pas masqué. On signera bien sûr hein, du célébrissime concombre. Concombre masqué de notre jeunesse.
Merci à Reynald de Brizay, maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Nantes, pour sa libre participation à ce 12e numéro de Confinez-vous à nous.